Radio Ndekeluka, le magazine parlementaire.
Bonjour à tous, bienvenue dans le magazine parlementaire de cette semaine. Nous produisons le 28e numéro. Il est consacré à la question de l'immunité parlementaire prévue dans l'article 118 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous recevons aujourd'hui Jean-Séphorien Mapenzi, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui va nous expliquer les circonstances dans lesquelles un député peut être couvert ou peut perdre cette protection juridique. En région, nous serons à Nola 2 dans la Sangambaïré pour rencontrer le député Dieudonné Marien Djémé, qui met en exergue les difficultés de la population face à la dégradation des infrastructures routières après la crise. Dans la rubrique loi, nous allons de nouveau nous intéresser à la loi sur l'Office national du coton, adoptée par les élus de la nation en Centrafrique, qui sera aussi au menu avec le député Guy Roger Mosquite de la Commission Population Genre. La concertation à l'Assemblée nationale est le lexique. Nous sommes deux pour vous présenter cette émission. Je suis Igor Jeskin. C'est n'a pas à mes côtés Jean-Eudes Bagali. La partie technique est assurée par Sylvain Amboa. C'est parti pour le magazine parlementaire de la Radio-Ndeké.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
Bonjour Igor Jeskin Sénapaï, bonjour à tous nos auditeurs.
Comme nous l'avons dit au début de ce magazine, les députés sont protégés constitutionnellement dans le cadre de l'exercice de leur fonction du représentant du peuple. Ils bénéficient de ce qu'on appelle immunité parlementaire.
Alors, qu'est-ce qu'une immunité parlementaire, Jean-Séphorien Mapenzi, premier vice-président de l'Assemblée nationale et député de Bimbo 2 ?
L'immunité parlementaire, c'est la protection que confère la loi à un député dans l'exercice de son mandat.
Quels sont les avantages liés à cette immunité?
Il n'y a pas d'avantage à proprement parler, sauf, si vous voulez, la Constitution l'a prévu et la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à son article 118, parle de l'immunité. En fait, aucun membre de l'Assemblée nationale, les députés jouissent de l'immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché ou arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions émises par lui lors des votes dans l'exercice de ses fonctions. Donc, pendant la durée de la session, aucun député ne peut être poursuivi sans l'autorisation préalable du bureau de l'Assemblée ou de la plénière. Voilà. Donc, hors session, un député ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est ça. Mais je précise que un député pris en flagrant délit ou en délit de fuite après la commission des faits délictueux ou criminels peut être poursuivi et arrêté sans l'autorisation de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire ce qu'on appelle flagrant délit.
Donc c'est le cas avec Rambo qui a été arrêté, ainsi que Anselme Binda là aussi.
Ah, c'est exactement le cas, c'est-à-dire en cas de flagrant délit, c'est-à-dire que si on commet un délit qui est flagrant, l'immunité ne joue pas. Et vous êtes traduit directement en justice. C'est le cas de, malheureusement, de notre collègue qui Rambo. Et aujourd'hui, vous voyez avec cet accident, qu'on peut dire malheureux, qui est arrivé à notre frère Mindala.
Président, une précision passée. D'aucuns pensent que, naturellement, s'il y a un cas de, comme le cas de Anselme Mindala, il faudrait que ça soit le bureau qui statue sur son sort. Or, c'est automatiquement la justice qui procède à la levée de son immunité.
Le texte dit en cas de flagrant délit. En cas de flagrant délit, l'immunité ne joue pas. Vous comprenez, c'est quand les faits sont comme le cas de Mindala, les faits sont flagrants, il n'y a pas de demande de levée d'immunité. Il est poursuivi directement, donc c'est ça.
La question sur le sort de certains députés membres de la commission ressources naturelles accusés de pot de vin dans l'attribution des titres d'exploitation minière à certaines entreprises chinoises. Jean-Séphorien Mapenzi donne une réponse.
Ça, c'est des cas de soupçon, comme vous l'avez dit. Donc, en ce moment-là, l'immunité joue. Et on ne peut poursuivre qu'un député lorsque les faits sont là et que c'est susceptible d'être traduit devant la Haute Cour de justice. Mais pour l'instant, je vous le dis, comme il y a une enquête parlementaire sur le sujet dont vous évoquez, je préfère ne rien dire à propos et laisser que cette commission parlementaire rende définitivement son verdict et on verra.
Je reviens sur les avantages passés. Certains disent que quand les députés, ils ont l'immunité, ils peuvent pas de verser de l'argent pour la douane. S'ils sont commerçants, ils ne peuvent pas verser quelque chose. Donc, il y a une réduction sur les impôts. Est-ce que c'est vrai?
C'est différent. En fait, il ne faut pas confondre qu'être député, on est au-dessus de la loi ou on est affranchi de certains. Non. Nous restons et demeurons citoyens comme les autres. Si un député exerce une activité commerciale, il a le droit de payer ses impôts et même la douane. Mais cependant, pour ses propres besoins, il peut bénéficier de certains avantages. Mais là, c'est encore dans la limite de la réglementation et ça, sous réserve des dispositions légales existantes. Et donc, je dis, un député député, c'est un homme comme tout autre, qui a des droits et des devoirs, qui est certes protégé parce que, en tant que député élu de la nation, doit avoir une protection, mais comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a vu, en cas de flagrance, il est poursuivi, il est tout. Mais si il commet un acte et que, après enquête, ça s'avère, il y a une procédure de levée d'immunité qui peut être enclenchée selon les faits. Et donc, le député n'est pas exempt de toute poursuite et donc n'est pas protégé de tout un citoyen, mais qui, dans l'exercice de ses fonctions, bénéficie de ce qu'on appelle immunité qui peut être levée sous certaines conditions ou qui peut tomber en cas de flagrant délit.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
Intéressons-nous cette fois-ci, Igor, aux activités des députés dans leur zone électorale.
Vous l'avez dit, Jean-Eudes, nous allons écouter.
Le député de Noula 2 dans la Sangambaïré déplore la dégradation des infrastructures routières dans la localité, constat fait lors de sa dernière mission parlementaire dans la région. Selon Dieudonné Marien Djemé, l'affaissement du pont de la commune de Yamando bloque la libre circulation des biens et des personnes. L'élu de la nation demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour pallier ce problème.
Il vous souviendra que dernièrement, lors de mon passage à Noula, je suis revenu et j'ai décrié le fait que la route qui mène de Bangui à Noula, si le gouvernement ne réagit pas, ça va être vraiment grave. Et même pas un mois après, j'ai été rappelé, la route qui va de Noula à Berberati au niveau de Yamando, qui constitue la quatrième parallèle, la route est coupée en deux. Donc, la circulation est interrompue. Ces vieux sont obligés de faire une déviation dans la brousse pour permettre à ces camions de passer. C'est vraiment regrettable pour que, à notre ère actuelle, une grande ville, le poumon de l'économie de notre pays, puisse être coupée de la capitale. C'est vraiment dommage.
Qu'est-ce que vous recommandez aux autorités par rapport à cette situation qui handicape la libre circulation de la route?
Je me suis rapproché du ministre résident et du directeur de fonds d'entretien routier qui m'ont laissé comprendre qu'il y a un financement. Il y a un financement par rapport à la route Mbaiki, Yamando, Noula et Berberati, Yamando, Noula. Mais à quand les débuts de travaux, ça je ne saurais vous le dire, mais ce que je dis, c'est vraiment regrettable pour cette population. Je ne sais pas, je l'ai toujours dit à maintes reprises, il vous souviendra que lors d'une émission avec vous, je me suis plaint du fait que, pour moi c'est un constat, je constate que la préfecture de la Sangambaïré est en quelque sorte jetée à l'oubliette. Ou bien elle ne fait pas partie de la République. Et c'est plusieurs raisons qui m'amènent à porter cette affirmation. Dans les deux gouvernements Sarandi, dans le gouvernement Grébada, vous ne trouverez aucun ressortissant de la Sangambaïré. Si au moins un représentant de cette localité, de cette préfecture, pouvait siéger au sein du gouvernement, peut-être que de temps en temps, il pourra attirer l'attention du gouvernement pendant les conseils des ministres par rapport à la préfecture. Tel n'est pas le cas et c'est vraiment dommage.
Les Bangouissois ont aussi donné leur avis sur la loi sur l'Office national du coton adoptée récemment à l'Assemblée nationale.
L'Office national du coton que l'Assemblée nationale vient de voter, nous, la population, on accepte ça aussi.
J'apprécie ça. En tout cas, c'est une belle idée que nos élus viennent de mettre en place. Donc, je crois que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. En tout cas, tout ça, c'est pour développer l'économie de la RCA et l'agriculture.
C'est une bonne chose pour le développement de notre pays, la RCA. Parce que beaucoup de jeunes, coton peut développer l'agriculture, aider nos paysans.
Je pense que la représentation nationale a pris ses responsabilités, on va le dire comme ça, parce que une cellule a peut-être des actions limitées. Or, si on passe au stade d'office, on a plus de capacités opérationnelles et on donne au pays un engagement pour pouvoir développer les activités liées à la production cotonnière. qui, à l'époque, nous ramenait beaucoup de devises. Entre-temps, on a perdu un peu parce que, bon, il y a eu des structurations du système. Maintenant, je pense que le message que la représentation nationale a envoyé à la population centrafricaine et aux acteurs de cette filière est un message fort. On les encourage tous à travailler pour que demain, on puisse au moins gagner un peu de notre coton et que les dettes que l'État avait contractées, parce qu'il fut un moment où on a pris du coton aux gens et puis on ne les a pas payés, on paye 4-5 ans après. Ça a déstructuré les familles, les enfants n'ont pas pu aller à l'école, les gens se sont plaints. Payez les dettes de tous les producteurs de coton, remettez-les au travail, donnez les meilleures semences, accompagnez-les dans le traitement des sols, le traitement des plants de coton. Et donc, on sait que le devenir sera meilleur. Peut-être que nous, on va commencer à produire des habits à partir du coton centrafricain.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
Jean-Eudes, place maintenant à l'honorable Guy Roger Mosquite qui va nous éclaircir sur cette loi.
La loi vient d'être votée par la majorité des députés parce que c'est une attente de beaucoup de cotonculteurs, des paysans. Le coton est très important pour nous et nous qui sommes d'un certain âge, on sait que le coton à notre jeunesse a joué un rôle très important, nourrissait plus de 1,5 million à 2 millions d'habitants centrafricains et on a été fiers de s'habiller avec les produits de nos cotons cultivés par nos propres parents. Donc c'est très important, c'est plus important que le désarmement, c'est plus important. Je crois qu'en relançant la filière de coton, on va régler beaucoup de problèmes de paix dans ce pays.
Il y a une différence entre la cellule coton et un office.
Il y a une différence organique par le fait que la cellule n'avait pas d'assises juridiques. Et l'office a une assise juridique conditionnée par l'exigence des bailleurs de fonds qui veulent qu'il y ait de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion de cet office-là pour que ça ne soit pas encore une énième office qui servira de cache d'argent ou cache de népotisme et de clientélisme.
Après cette adoption, quelle est la procédure à suivre pour l'opérationnalisation de cette structure ?
La procédure, ça va être complètement au niveau de l'exécutif. Donc le gouvernement est très remonté pour que ces choses-là se réalisent très rapidement. Et la population ne cesse d'attendre que cette activité de coton reprenne. Il y a des problèmes d'arriérés. Le gouvernement va faire de telle manière que progressivement les choses vont se régulariser. Mais avec l'apport des bailleurs de fonds, on va peut-être voir le gouvernement à l'œuvre pour relancer effectivement cette activité de coton qui occupe pratiquement 60% du territoire national.
Vous écoutez toujours le magazine parlementaire de Radio Ndekiluka depuis Bambaré dans le centre-ouest de la République centrafricaine sur 100.9 FM. Nous allons terminer avec le terme la concertation à l'Assemblée nationale. Des réponses avec Moussa Laurent Gonbaba, président de l'Assemblée nationale.
La concertation est la séance au cours de laquelle l'ensemble des députés se retrouvent exclusivement sans la participation d'une tierce personne pour échanger sur les questions internes à l'Assemblée nationale. Il n'y a que les députés qui se retrouvent à cette séance-là. Ni le personnel de l'Assemblée nationale, ni l'assistance ne peut participer à la séance de concertation. Et donc, ça permet au bureau, à l'ensemble des députés, d'échanger sur des questions qui les préoccupent et de dégager ensemble des solutions consensuelles pour le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale.
Ainsi s'achève ce magazine parlementaire de la semaine sur Radio Ndekiluka. Nous remercions infiniment tous ceux qui l'ont suivi. Nous disons aussi merci à l'équipe de la communication de l'Assemblée nationale. C'était une présentation de Igor Djeskin Senapaye.
Joët Bagali.
La gestion numérique est une affaire de Ben Loïc Adjezekane et Diane Bokula. Portez-vous bien. Toutefois, vous pouvez réécouter ce magazine sur le site de Radio Ndekiluka, www.radiondekiluka.org.